marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Moi, j'ai vivé avec ces jeunes. Comme j'étais le plus jeune photographe en ce moment, et ces jeunes aussi me faisaient savourer le goût même de la jeunesse et de la vie. Malgré que je n'ai jamais dansé. Je n'ai jamais dansé, mais quand je les voyais danser, c'est comme si j'étais sur scène.
La voix de Malik Sidi Bé dans La Marche du Monde. C'est le grand photographe malien à immortaliser la jeunesse dans les clubs de danse. Le phénomène des surprises parties s'étendait bien au-delà de Bamako dans les années 60. Partout en Afrique de l'Ouest, les capitales des jeunes nations indépendantes résonnaient des rythmes syncopés du cha-cha-cha, du rock'n'roll, de la rumba et du twist.
Révitons pas, faites comme moi, tu vis bien même pas, rythme le twist, ouais, dans le voilà, main là,
ouais. Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez, c'est là que commence toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances.
We're gonna twist that twist of twisting till we tear the house down, one more time, go.
Africa Twist, c'est un nouvel épisode de La Marche du Monde pour évoquer la jeunesse des années 60 à Bamako, à Dakar, à Ouaga ou à Abidjan. Une jeunesse prête à s'émanciper dès les premières années des indépendances des jeunes nations africaines.
Dans les années 60, moi j'étais en Côte d'Ivoire, mon pays natal. Je suis né à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et dans les années 60, c'était les années des indépendances, donc des années d'effervescence, d'euphorie, d'insouciance. Et puis forcément, quand on est dans l'euphorie, quand on est dans l'ambiance, quand on est dans le rêve, on est forcément dans la musique. Et donc pour moi, forcément, j'étais préadolescent et j'étais encore et à cri dans la musique à 300 à l'heure, quoi. Et dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il y avait non seulement la radio nationale, donc Radio Côte d'Ivoire, mais on était aussi couvert par les stations comme la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou la BBC, qui sont les deux premières grandes radios qui couvraient l'Afrique dans ces années des indépendances. Et la musique s'écoutait essentiellement par la radio.
Grand spécialiste de la musique et de l'histoire des Afriques qu'il raconte chaque dimanche sur la radio française France Inter, Soro Solo est notre grand témoin. Lui aussi se reconnaît sur les clichés du photographe malien Malik Sidi Bé, car lui aussi, twisté dans les clubs d'Abidjan, c'est toute sa jeunesse.
Et quelle musique des gamins de 10 ans comme moi écoutaient? Il y a d'un côté nos musiques traditionnelles, mais à la radio, on écoutait surtout la musique occidentale, le rock, le blues, le jazz et aussi la musique congolaise qui a tout le temps été la première musique la plus diffusée sur nos antennes africaines, qui est la rumba congolaise. Donc, dans les années 60, nous baignons dans un mélange de musique rock, de musique pop, de musique afro-américaine, le blues, le jazz. Et c'est surtout la variété française qui était la plus omniprésente. C'est normal, on était colonisé par la France. Mais je me rappellerai toujours de l'année 1966 avec l'arrivée du 45 tours de Johnny Hallyday, Noir c'est Noir. Et donc des gamins comme moi, on adorait écouter Noir c'est Noir de Johnny Hallyday. Une grande partie de la variété française, comme celle de Françoise Hardy, de Sheila, Paul Naref, en fait, toutes ces musiques de toutes les grandes stars françaises étaient énormément connues en Afrique.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue. Souvenir de nos beaux jours de l'été. l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir, il me reste nos chansons.
« 1960, tandis que Johnny Hallyday chante son premier tube, un duo de ses 17 ans, a-t-il conscience de l'impact de son style électrique sur la jeunesse urbaine et scolarisée des anciennes colonies françaises ? Une jeunesse photographiée à Bamako par Malik Sidibé, l'un des grands portraitistes du continent africain, autodidacte et reporter dans l'âme.
« D'abord, j'ai commencé à réparer, à bricoler dans les appareils depuis 1957. Pourquoi ? Parce que... envoyer les appareils par en Europe, c'était un peu difficile. C'était pas à la portée de tout le monde. Donc, je me suis débrouillé, bricolé, sans l'aide de personne. Et j'ai commencé à dépanner les petits appareils d'abord, tout simple. Et après, les relais, les appareils professionnels. Alors, c'est pourquoi je me suis lancé dans la photographie. Donc, le métier de photographe, déjà, m'a permis de connaître presque le rôle de chaque pièce de l'appareil. Ça, c'est d'abord parce que je suis photographe.
Et puis donc, il y avait bien sûr les reportages, et vous partiez toujours faire des reportages, ces fameuses soirées un peu partout à travers le Mali.
Voilà, à travers le Mali, je peux dire que je ne me suis pas borné seulement à Bamako, et j'étais sollicité même pour des mariages ou bien pour des cérémonies officielles dans les villages traditionnels, et qu'on m'invitait des fois à longue distance, à 300, 400 kilomètres de la ville de Bamako. Et la musique, encore, je suis tombé sur un moment où la musique de l'Amérique latine a fait son apparition. Les pacheco, les charanga, les cha-cha-cha. Donc, en ce moment, autant de vieux photographes, les gens ne connaissaient pas ça. Mais moi, je suis tombé sur une période vraiment où le monde était beaucoup vraiment communiqué. Il y avait vraiment une communication. En Paris, s'il y a une mode ou quelque chose qui sort à Paris, dans un mois déjà, c'est presque en Afrique. Ouais. Alors, je suis tombé sur ce temps. Ou les jeunes encore en plus, parce que dans nos tam-tams traditionnels ou dans nos balafons traditionnels, il n'y avait pas de contact entre le jeune homme et la jeune fille. Les jeunes profitaient de toutes les occasions pour organiser une soirée et pour pouvoir toucher leur bien-aimé, quoi. Hein? Ou bien faire des fréquentations, ou bien des conquêtes. Si ça leur permet aussi de faire les conquêtes. Tout était au profit de la jeunesse.
Une photo réussie, une belle photo, qu'est-ce que c'est ?
Bon, c'est difficile, j'en ai tellement pris. J'en ai tellement pris que...
Vraiment... que vous aimez, là, autour de nous, est-ce qu'il y en a que vous aimez ? Vous pourriez sortir de vos fameux catalogues, là.
Ouais, parmi les danseurs de cuisses. Et ça aussi, vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Regardez-moi avec cet orgueil des machins. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu.
Les danseurs de twist.
Oui, twist tout. Le danseur de cuisses, là, ça m'a, en 65, ça m'a vraiment beaucoup plu.
Malik Sidibé, encore et toujours fasciné par les gesticulations des danseurs de twist, 40 ans après les avoir photographiés, comme en témoigne cette archive France Culture de l'année 2000. Car Malik Sidibé, surnommé l'œil de Bamako, était de toutes les surprises parties.
Les photographies qui évoquent Malik, la danse et le twist, ou Regardez-moi, c'est en effet deux garçons qui sont en train de danser. De façon frontale, comme ça, face à lui, l'un de dos, l'autre de face, dans des positions qui montrent toute la liberté, l'insouciance, la joie, l'espoir, les mecs qui vivent pour la première fois, et en même temps que nous, encore une fois, cette musique qui dévoile des libertés nouvelles. En fait, la déferlante du rock'n'roll à l'échelle mondiale, elle est la même partout. Elle libère la jeunesse.
Elle libère le corps.
Elle libère le corps, exactement. Il y a la sape qui va avec. Il y a une déliberté qu'on n'a jamais connue depuis après la guerre. Vous voyez, c'est voilà, on est en 60. C'est la guerre est pas si loin derrière, 10 ans, 12 ans, n'est-ce pas ? Et puis, Malik, il témoigne de ça.
Le collectionneur André Magnin, commissaire de l'exposition Mali Twist, a rencontré pour la première fois Malik Sidi Bé, son aîné portraitiste Seydou Keïta, au début des années 90.
Je dois dire que lorsque Malik m'ouvre ses archives, je suis assez stupéfait de voir, même de revivre, je dirais, ce que moi j'ai vécu dans les années 60, un petit français de province qui découvrait le twist, le hula hoop, le rock, le cha-cha-cha, etc., sur lesquels je dansais lorsque j'avais 14 ou 15 ans, mes premières surprises parties. Et là, dans les photos de Malik, en fait, je vois ce que j'ai vécu dans ces années-là. C'était assez stupéfiant de voir la liberté, l'insouciance de tous ces enfants, de tous ces adolescents, ces post-adolescents, qui en fait découvrent exactement en même temps que nous les mêmes musiques. Et ça arrive en 60, 61, 62, lorsque Malik commence ses photographies dans les clubs des jeunes, dans les surprises parties organisées par ces clubs. Eh bien, on s'aperçoit qu'ils écoutent la même musique, dansent la même façon que nous, à la même époque. Et ce qui est incroyable dans ces photographies, c'est la façon dont ces jeunes se montrent à lui, n'ont pas peur du photographe. Vous savez pourquoi ? C'est parce que Malik aimait cette jeunesse libre, en était fier, et les jeunes avaient une totale confiance en lui, et donc ils se sont donnés à lui comme ils se donnaient à personne. C'est ce qui fait que l'œuvre de Malik est si extraordinaire.
Donc il y a une réelle effervescence culturelle et économique à cette période-là, dans les années 60.
Ophélie Rion est historienne, spécialiste des luttes sociales et politiques au Mali.
L'époque Modibo Keïta est caractérisée, notamment au départ, au moment de l'accession à l'indépendance, par une effervescence complètement folle, en fait. Beaucoup d'espoir, il faut créer un nouvel État indépendant. Et Modibo Keïta va faire de la jeunesse le fer de lance de sa politique économique, artistique, de la construction de l'État, aussi d'un point de vue culturel. Donc il met les jeunes au cœur de sa politique en organisant les jeunes. Il y a les jeunesses de l'Union soudanaise RDA, il y a les pionniers, il y a les brigades de vigilance. Voilà, tout ça c'est des formes d'organisation de la jeunesse malienne. Il organise aussi à partir de 1962 la Semaine nationale de la jeunesse, où se retrouvent les jeunes des différentes régions du Mali pour des compétitions artistiques, sportives. Voilà, donc la jeunesse yéyé de Bamako à la fois participe à la construction du Mali socialiste de Modibo Keïta et en même temps s'en détache progressivement, et de par ses attitudes vestimentaires, corporelles, de par les musiques qu'elle écoute, cette jeunesse en fait rentre progressivement en opposition non déclarée avec le régime de Modibo Keïta, dans le sens où elle propose d'autres modèles, d'autres formes d'identification, d'autres manières de se penser et d'être jeune à Bamako dans les années 60. Et bien entendu, le régime de Modibo Keïta, qui est un régime de type socialiste, qui a fait le choix du socialisme pour le développement du pays, et bien va mal accepter ces musiques qui viennent de l'étranger, des puissances impérialistes, de la France, l'ancienne métropole coloniale, des États-Unis, symbole du capitalisme, et progressivement va avoir de plus en plus de suspicions à l'égard de cette jeunesse occidentalisée.
Une jeunesse rebelle.
Rebelle, pas ouvertement, mais rebelle en tout cas par rapport au modèle qui est proposé par le régime de Modibo Keïta, d'encadrement de la jeunesse, d'uniformisation des corps, de marche au pas dans des grands défilés populaires. Et cette jeunesse, elle, on le voit très bien au travers des photos de Malik Sidi Bé et des photographes de cette période-là, en fait, propose des corps déchaînés, des corps qui s'enlacent, des corps qui se touchent, des corps qui sont désarticulés par la danse, dans des postures toujours plus extravagantes, liées au rock'n'roll. Et cela va à l'encontre, bien entendu, des images proposées par le régime socialiste de Modibo Keïta.
I'm not afraid to die.
Alors, ces grains, ces surprises parties, ces clubs de jeunes ne sont bien entendu pas seulement un phénomène bamakois. Déjà, on le retrouve rien qu'à l'échelle du Mali, dans les villes secondaires. À Kaye, à Ségou, à Sikasso. Voilà, il n'y a pas que dans la capitale que l'on retrouve ces phénomènes. Déjà parce que les écoles existent dans d'autres espaces. Et puis les jeunes circulent, ils ont de la famille à travers tout le pays. Donc voilà, à l'échelle du Mali déjà, ce n'est pas seulement Bamako. Et ensuite, à l'échelle du continent africain, bien entendu, on retrouve ces phénomènes-là, ces rencontres, ces musiques, ces fêtes ailleurs, à Ouagadougou, à Dakar, à Abidjan, au Congo-Brazza, en Tanzanie. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus global et on a, dans ces années 60, une culture globale de la jeunesse qui fait écho à travers le monde, en fait. En Europe, aux États-Unis, en Afrique et même, d'une certaine manière, en Union soviétique, même si c'est plus compliqué. De Moscou à Los Angeles, de Paris à Bamako ou Abidjan, la jeunesse est branchée sur la sono mondiale, comme l'évoque Soro Solo, alors adolescent dans le nord de la Côte d'Ivoire.
À Korogo, il y avait le club de la voûte, et où les orchestres jouaient, mais où aussi on passait des disques sur platine pour les noctambules qui viennent danser dans les clubs. À Boaké, il y avait ce fameux orchestre très célèbre de Boaké qu'on appelle l'Ofi de Boaké. À Abidjan, on assistait à la naissance des grands orchestres comme Amédée Pierre ou comme Anoumambrou Félix ou de nouveaux groupes de jeunes qui, eux, étaient plus attirés par la musique occidentale. Les New System Pop, les Djinarou et les Fétiches. C'est dans ces clubs-là que nous avons commencé aussi à découvrir des musiques qu'on ne connaissait pas, qu'on n'entendait pas forcément à la radio, mais plutôt la variété française ou la variété afro-américaine. Des musiques qui arrivaient par les marins au port d'Abidjan et que des distributeurs faisaient circuler jusqu'à l'intérieur du pays, jusque dans l'arrière-pays. Et donc on pouvait écouter, j'entends siffler le train de Richard Anthony. Bon, c'était déjà le milieu des années 60, 64, 65, 66. On pouvait écouter I Feel Alright de James Brown, Les Nuits d'Apollo, Apollo Night, c'est le club Apollo à Harlem, ou à Abidjan, une boîte comme La Boule Noire faisait venir des orchestres de jazz ou de pop musique. Voilà, c'était vraiment le développement tout azimut de toutes les musiques du monde, quoi.
Enfilez vos pantalons moulants et vos robes bouffantes et retrouvez-nous sur la piste d'Africa Twist. C'est à suivre dans la marche du monde sur RFI.
Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de la Marche du Monde sur RFI, consacrée à la jeunesse des années 60 dans les Afriques. Une jeunesse immortalisée par le grand photographe malien Malik Sidibé dans le Bamako nocturne des clubs et des surprises parties.
These arms are mine. moi danser, danser. Le temps de te toucher les mains.
Terriblement sexy, les voix d'Otis Redding, Aretha Franklin ou encore Mike Brandt annoncent la séquence slow. Les filles et les garçons en profitent pour se choisir, se rapprocher, s'enlacer et pourquoi pas s'embrasser. Une révolution des mœurs annoncée par les tenues vestimentaires de la génération yéyé. C'est tout un look inspiré à Bamako par le couturier Balot, rencontré dans les années 90 par André Magnin. L'expert en art africain est aussi le commissaire de l'exposition Mali Twist, consacré au photographe Malik Sidi Bé.
Alors en effet, moi j'ai rencontré le grand couturier Balot qui m'a dit s'être inspiré en fait de Salut les copains. Voilà, le magazine français qui arrivait à Bamako, c'était Perrier qui faisait les photographies. Donc il y avait les looks, et il y avait les fringues et les positions dans les photos de Perrier. Et puis le Balot, si vous voulez, s'inspirait de ces looks qui correspondaient aussi au nom des clubs que les jeunes prenaient. Ils s'appelaient les Gentlemen, ils s'appelaient les Azou, ils s'appelaient les Caïds, le club Saint-Germain-des-Prés, etc., le club Aragon. Et ils s'inspiraient donc aussi des looks de l'époque, selon les musiques qu'on écoutait, selon la fréquentation qu'on avait. Et on retrouve donc les mêmes looks. Même parfois, les jeunes inventaient. Balot, d'ailleurs, se promenait lui-même là où il y avait l'électricité, le vendredi. Et c'était comme une sorte de défilé sur le macadam, non loin de chez Malik Sidi Bé. Et il portait ses propres vêtements, ça allait du blouson en cuir, du pâte d'éléphant, la veste à fleurs, la chemise à fleurs, tout ce que vous voulez. Et les jeunes repéraient Balot, qui était sapé, qui marchait comme un défilé, et puis commandaient à Balot les mêmes costumes qu'il portait lui-même. Et peu après, Balot passait de la rue Patienga à la rue Bagadadji, il y a 300 mètres, il traversait là sur des pierres pour ne pas salir ses chaussures, et arrivait chez Malik pour se faire photographier par Malik, qui a donné les plus beaux portraits de Balot sapé avec les costumes qu'il proposait à la clientèle.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées.
Ben, les filles, de la même manière, elles avaient aussi accès au catalogue de la Redoute. Il y avait des catalogues de la Redoute, il y avait donc Salut les copains. Et donc elles voyaient aussi la façon dont on s'habillait dans la fin des années 50, début 60, en France par exemple. Et donc, faut savoir une chose, c'est que le papa, il exigeait qu'on porte les boubous, pas qu'on montre ses jambes comme ça. Et si bien qu'elle s'entendait avec la maman, donc elle sortait, elle disait au papa qu'elle sortait en boubou, et sous le boubou, elle portait les robes, pas de pantalon, des robes.
Des jupes, non. Elles sont courtes parfois, elles sont bouffantes en tout cas.
Courtes, mais pas mini-jupes. Le mini-jupe, c'est début 60, je ne sais pas si ça existait déjà.
Donc elles ont des jupes bouffantes.
Voilà. Donc elles cachaient au papa les robes sous le boubou, et dès qu'elles étaient sorties, qu'elles arrivaient non loin de la surprise partie, hop, elles enlevaient le boubou, elles mettaient la robe. Et donc, grâce à la musique, comme l'a dit Malik, c'est Malik qui m'a soufflé, mais c'est magnifique, avec les musiques traditionnelles, la jeunesse ne pouvait pas se toucher, alors qu'avec le slow et le rock, ben d'abord avec le rock on peut se prendre la main, puis avec le slow on se prend dans les bras pour danser tendrement, et c'est la première fois que les jeunes peuvent se toucher. Donc les garçons sont sapés, les filles sont sapées, il faut plaire aux garçons, les garçons, pour attirer les plus belles filles, ils doivent avoir les plus belles fringues, et voilà, c'est la fête.
Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir, à ton âge il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour.
Cette jeunesse africaine, en fait, s'empare de différents modèles culturels et en fait une culture qui lui est propre. À mon sens, il s'agit d'une réinvention culturelle et non pas d'un mimétisme ou d'un simple reflet de ce qui se passe dans d'autres pays.
Nous retrouvons l'historienne Ophélie Rillon. Elle travaille sur la jeunesse des années 60 au Mali sous le régime socialiste de Modibo Keïta.
D'ailleurs, on ne peut pas parler seulement d'occidentalisation, parce que les musiques qu'ils et elles écoutent viennent d'Europe, des États-Unis. Il y a également la rumba congolaise, la biguine, l'afro-cubain et les musiques locales, les musiques du Mali qui sont largement diffusées à cette période-là, réinventées aussi dans cette politique culturelle de Modibo Keïta, par exemple. Karkar, le blouson noir, l'Elvis Presley ou le Johnny Hallyday malien a... pris des sons maliens, il a électrifié sa guitare et il a fait danser la jeunesse bamakoise. Et en même temps, ce registre électrifié fonctionnait très bien à l'époque du régime de Modibo Keïta, au point qu'il était diffusé sur la radio nationale. Donc cela veut dire que le régime acceptait ce type de musique dans une certaine mesure.
Et dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime, et dis-lui. Je l'aime comme un Mali, dis-lui que je l'aime. Et dis-lui que je l'aime comme un Mali, dis-lui que je l'aime.
Dans cette fête des indépendances, dans cette fête des clubs de la jeunesse à Bamako, à Abidjan, à Ouagadougou, à Dakar, André Magnin, on écoute aussi de la musique africaine et notamment Mali Twist, puisque c'est le titre éponyme de l'exposition dont vous êtes le commissaire. J'aimerais que vous nous parliez de Karkar, de Boubacar Traoré et de cette chanson très africaine mais également très électrique.
Voilà, oui, alors Karkar en effet... Début des années 60, c'est un grand guitariste. Il est, comme toutes les grandes voix maliennes, c'est les voix qui viennent du Sahel, là, qui est profonde, c'est les voix du blues. Et Karkar écrit Mali Twist, et ça devient un tube. Et la radio Mali jouait cette chanson en boucle parce que les auditeurs demandaient à ce que Mali Twist passe. Donc Karkar en fait fait partie, il est écouté quoi, c'est une star, il se promène en Vespa, il a le blouson de cuir, c'est une idole Karkar à Bamako.
De Bamako à Dakar, en passant par Abidjan, la danse permet aux jeunes gens de se découvrir et de flirter. Écoutez comment Soro Solo, notre grand témoin ivoirien, s'y prenait, lui, pour draguer.
Ce qui nous marquait dans ces danses qu'on copiait auprès de nos aînés qui venaient des grandes villes comme Abidjan ou Bouaké, c'était déjà la dextérité, même la souplesse avec laquelle on peut danser, la façon de faire bouger son corps, et que ce soit érotique, de danser comme le Pacheco et des Cubains, et bien, c'est ça qui nous plaisait là-dedans. Parce qu'on savait qu'en le reproduisant, les jeunes filles nous verraient, nous regarderaient, nous remarqueraient. Et comme ça facilitait la conversation quand on commençait à vouloir lui raconter de belles phrases dans le creux de l'oreille. Une soirée, on danse en couple, on danse, quand on fait quand on veut danser du jerk, on se met en face d'une jeune fille, on danse pas avec un mec. La danse est faite en couple. Parce que dans nos traditions, comme la rumba, la base de la rumba, c'est de danser et se frotter le nombril contre le nombril. Ouais, déjà même dans ce qu'on peut appeler nos danses traditionnelles, la notion de danser en couple existait. Donc forcément, on a reproduit ça aussi dans nos soirées modernes avec ces musiques modernes venues de l'Occident en général. Donc forcément, quand on va dans une surprise partie, la fille qu'on a envie de courtiser, c'est celle-là qu'on va aller chercher pour danser. Et forcément, les plus belles, les plus jolies, les mieux sapées, c'est celle-là qui était le plus sollicitée pour aller danser, pour venir danser sur la piste.
Corre hacia ahí, caballero, echen un paso para atrás.
Yo lo que quiero es que la gente se corra para poderme montar.
Corre hacia ahí, caballero, echen un paso para atrás. linda, maman.
Et les surprises parties étaient généralement organisées par des groupes de jeunes qui se constituaient en club. Et c'est souvent qu'ils donnaient un nom emblématique, soit un nom inspiré de l'Occident, soit un nom d'un chanteur célèbre de la France ou de l'Amérique, ou des noms d'acteurs de cinéma, le club Yul Brynner. Et ces clubs-là, une fois par an, à l'occasion des grandes vacances, ces clubs-là organisent une surprise party. Et l'une des conditions pour participer à ces surbooms ou à ces surprises parties, il faut être soit membre du club ou avoir une bonne petite collection de 45 tours. Et la collection de 45 tours, parfois, ça se résume à 2 45 tours. Mais pour peu que ce soit des 45 tours recherchés par tout le monde, ça vous ouvrait toutes les portes de toutes les surprises parties de la ville. Par exemple, à Korogo, chez moi, il y avait le club Los Niños. Un club monté par des jeunes collégiens qui, eux, sont partis de Korogo pour aller fréquenter le collège à Boaké, donc dans la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et eux, ils étaient tous des jeunes qui faisaient l'espagnol. Donc ils ont choisi le nom Los Niños. Ça nous faisait rêver. On ne savait même pas ce que ça voulait dire. Plus tard, on saura que ça voulait juste dire les enfants, quoi.
Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris. Et c'est fini. Oh, oh, oh.
Et la surprise partie annuelle de Los Niños, il fallait y être. Quand tu es invité à cette surprise partie, ça veut dire que tu es un jeune en vue, tu es un jeune moderne, tu es un jeune connu, tu es un jeune qui a de la popularité dans le quartier. Mais sinon, on ne t'invite pas. Mais par contre, si tu avais un 45 tours, genre Noir c'est Noir de Johnny Hallyday, ou d'avoir Mr. Pitiful de Otis Redding, ou Respect, ça c'est un des titres de Otis Redding. Quand tu avais ça, eh bien, tu étais invité obligatoirement. Et dans toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire que je ne saurais citer en détail, c'était pareil. Il y avait des clubs. Et dans toutes les capitales africaines, Bamako, Dakar, Abidjan, Conakry, tu avais des clubs partout.
Ce qui est très intéressant, c'est que la jeunesse bamakoise de ces clubs va essayer de réguler les relations de couple.
Ophélie Rillon.
Et réguler l'intime, en fait, en proposant de nouvelles normes, qui ne sont pas si nouvelles que ça, parce qu'en fait, ils reprennent les codes, les normes conjugales qui étaient diffusées par les écoles coloniales. Mais là, entre pairs, à l'intérieur des clubs, ils vont se les réapproprier. Ils vont parfois, tout dépend des clubs, ériger des règles strictes de monogamie. Un jeune homme ne peut pas avoir plusieurs petites amies, mais doit avoir une seule copine. Les jeunes filles choisissent leur partenaire. Notamment, un des critères est de bien savoir danser. Donc, les garçons doivent faire preuve de leur masculinité en montrant combien ils savent danser la biguine, le rock'n'roll, le tango, les danses à deux, en fait. C'est très important. Donc voilà, tous ces critères sont pris en main par les jeunes eux-mêmes dans une forme de transformation, en fait, des rapports conjugaux à cette période-là. Et cela continue dans les années 70, en effet, dans les photographies de Malik Sidibé prise sur la plage, on voit des couples en fait se former, s'enlacer, poser en couple. Donc le couple monogame devient une règle pour ces jeunes. Rien ne dit qu'ils se soient conformés toute la vie à cette règle-là, mais en tout cas c'était les imaginaires de leur époque. Être en couple, aller au cinéma ensemble, se promener ensemble, lire ensemble, c'est le couple romantique qui se diffuse aussi à cette période-là et que l'on retrouve dans leurs lectures, dans les journaux comme « Salut les copains »,« Intimité ». Tout cela, bien sûr, berce leurs imaginaires conjugaux.
Dans les années 60, la jeunesse urbaine des jeunes nations indépendantes lit les mêmes revues, écoute les mêmes musiques. Elle est reliée par une culture mondialisée. Mais cette culture yéyé fait peur. Les blousons noirs sont assimilés aux mauvais garçons et les filles sont accusées de frivolité. Pour ne pas dire plus, les amateurs de twist entrent-ils dans la ligne du parti? Écoutez la réponse d'Ophélie Rillon.
Au début des années 60, le régime de Modibo Keïta va laisser cette jeunesse vivre, faire comme elle l'entend, n'y voyant pas en fait une menace pour l'ordre politique. Et puis progressivement, les choses vont se resserrer. La rupture a lieu en 1966, D'une part par un événement extérieur, lorsque Kwame Nkrumah, le président ghanéen, va être renversé par un coup d'état militaire. Et là, les dirigeants politiques maliens vont avoir peur, peur que la même chose se produise au sein du Mali. Et ils vont voir des ennemis partout, des complots partout, et notamment des complots occidentaux. Et donc la jeunesse yéyé, qui s'inspire d'éléments culturels qui viennent de France et des États-Unis, va apparaître comme étant une potentielle menace, un potentiel ennemi de l'intérieur. Et donc, dès 1966, Modibo Keïta va faire un discours au centre d'apprentissage de Niarela, un discours dans lequel il va stigmatiser la jeunesse yéyé, l'accusant d'être occidentalisée et donc de déstabiliser l'ordre social. Et donc Modibo Keïta va appeler d'autres jeunes à se former en brigade pour aller réprimer ces jeunes yéyés, garçons et filles. Et les jeunes yéyés vont être arrêtés, bastonnés. Les garçons vont avoir les cheveux, parce qu'ils ont les coupes afro, donc les cheveux coupés, rasés, souvent à blanc avec des tessons de verre. Les filles vont être déshabillées dans la rue, enroulées d'un pagne, parce que les filles qui portent des mini-jupes vont être perçues comme étant des mauvaises filles. Voilà, donc garçons et filles sont réprimés assez violemment à partir de 66 et surtout 67-68, parce que là on entre dans une autre phase du régime de Modibo Keïta, la période de la révolution active qui se tourne vers le socialisme scientifique, et ces jeunes yéyés sont considérés comme des perturbateurs.
And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need, and sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
C'est progressivement que vont se créer dans les établissements scolaires des mouvements de la jeunesse, mais très souvent affiliés au parti unique. Il ne faut pas oublier que, selon les dirigeants de l'époque, le parti unique permettait la cohésion nationale. On ne peut pas te permettre de laisser une floraison de partis divers et variés, parce que ça risquait de nous disperser dans les choix politiques, dans les actions de développement, etc. Donc, les mouvements qu'on peut considérer comme des mouvements politiques, c'était des mouvements de jeunes encadrés ou organisés au sein de structures affiliées au parti unique. Quand on est au collège, ou à 16 ans, 17 ans, quand on est au lycée, ou à l'université, un mouvement politique des jeunes scolarisés de mon pays, la Côte d'Ivoire, c'était par exemple l'Union nationale des jeunes du PDCI-RDA. L'Union nationale du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ouais. Et dans chaque pays, on avait pareil un mouvement politique des jeunes, mais affilié au parti unique.
Et en ce qui concerne le Mali, l'expérience du socialisme scientifique de Modibo Keïta est stoppée net par le coup d'état militaire de Moussa Traoré en 1968.
Le coup d'état de 1968 va être en partie perçu comme étant un appel d'air, un moment de libération pour cette jeunesse yéyé, qui va pouvoir réinvestir la rue, réinvestir les clubs, réinvestir les espaces pour danser, en fait, pour refaire ces bals poussières qu'ils avaient menées dans les années 1960. Parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que les années 67-68 avaient refermé ces possibilités pour la jeunesse urbaine de Bamako, avec ces milices et ces brigades de jeunes qui arpentaient les rues et qui empêchaient les jeunes de s'habiller comme ils le souhaitaient, de faire la fête. Et donc là, il retrouve cette liberté-là. Alors c'est ambigu dans le sens où cette jeunesse urbaine, bien entendu, s'oppose au coup d'État. Elle voit d'un très mauvais œil les militaires arrivés au pouvoir. Et en même temps, dans leur pratique quotidienne, dans leur socialisation, ils retrouvent des espaces de liberté qu'ils avaient perdus à la fin du régime de Modibo Keïta.
Oh yeah. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux. Je ne les garde pas pour me faire remarquer, ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me plaît. ouvrière. Si je porte des chemises à fleurs, c'est que je suis en avance de deux ou trois longueurs. Ce n'est qu'une question de saison, les vôtres n'ont encore que des boutons. Oh yeah.
Dans nos pays, comme en France, tous les mouvements des jeunes étaient un signe d'inquiétude pour les dirigeants, pour les politiques. Donc, certains ont trouvé le moyen de circonscrire le mouvement pour empêcher son développement. Moi, je me rappellerai toujours certaines des grèves de 1968 organisées par les jeunes, quoi qu'ils aient été à l'intérieur de l'UNESCI, Union nationale des étudiants de Côte d'Ivoire, l'administration de la Côte d'Ivoire de Fouad Boigny, pour empêcher, pour étouffer les velléités de grève dans les établissements scolaires, a fait signer une décharge par chaque écolier, par chaque élève, par chaque lycéen, qui l'écrivait à la main. J'ai sous-signé un tel Souleymane Koulibaly, atteste par la présente que je ne m'inscrirai plus jamais dans un mouvement de grève, sinon je m'expose au risque d'être exclu définitivement. Et c'était la procédure de Fouad Boigny pour psychologiquement conditionner les jeunes pour ne plus jamais qu'ils s'inscrivent dans un quelconque mouvement de contestation.
Fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman.
Donc les mouvements culturels, les mouvements musicaux, comme le mouvement yéyé, il a forcément gagné cette Afrique-là. On s'habillait avec des chemises en fleurs, comme Antoine, le chanteur Antoine. On s'habillait avec, quand on pouvait trouver un blouson en cuir dans le vêtement de seconde main qui venait des États-Unis dans nos pays, ben, on allait se chercher un blouson pour ressembler à Johnny Hallyday, à des jeunes Américains. Et ça aussi, c'était une façon de manifester notre différence et notre statut de jeune qui n'est plus tout à fait en accord, qui n'est plus un béni oui-oui face à nos parents, face à nos dirigeants.
Et d'Abidjan à Bamako, de jeunes photographes reporters suivaient l'actualité de cette jeunesse enthousiaste et créative. Et c'est tout le talent du photographe Malik Sidibé, distingué par un Lion d'or en juin 2017 à Venise pour l'ensemble de son œuvre, d'avoir magnifié la vitalité de la génération des indépendances. Des photographies considérées comme de véritables sources historiques par Ophélie Rion.
Alors les photographies de Malik Sidibé sont des sources formidables pour les historiens et les historiennes qui travaillent sur cette période-là, sur les années 60-70, parce que nous travaillons essentiellement sur des entretiens, sur des archives écrites, mais des archives du pouvoir, les archives de police, de gendarmerie, du parti. Et là, on a des photographies qui nous permettent d'accéder au monde des jeunes, tels qu'eux-mêmes souhaitaient être représentés. Et donc ça, c'est assez inédit, en fait, d'avoir accès à ce type de source. Malik Sidibé n'est pas le seul, bien entendu, à avoir photographié ces jeunes dans leur quotidienneté, dans leur sociabilité, dans leurs fêtes et dans leur vie privée, personnelle. Il y a d'autres photographes maliens et dans d'autres pays également, mais qui sont moins connus, moins accessibles, moins diffusés. Donc tout l'intérêt est de retrouver ces documents pour nous, historiens et historiennes, pour écrire cette histoire des années 60-70 à partir de sources qui sont finalement les sources les plus proches de la jeunesse pour pouvoir raconter une autre histoire que celle qui nous est accessible par les archives de l'État.
Et vous pouvez découvrir les photographies de Malik Sidibé à la Fondation Cartier à Paris. C'est jusqu'au mois de février 2018. Africa Twist, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel. Retrouvez les photos de Malik Sidibé sur notre Facebook. Réagissez, dansez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.